Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against the single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro, crushed and trampled to death under the metal feet of the monster, or burned to cinders by its heat ray.
Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier numéro de Les yeux ont des oreilles de l'année, avant des vacances bien méritées. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je suis en compagnie d'Héloïse et de Rémi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathias.
Bonjour Héloïse.
Bonjour Rémi.
Émission très méta aujourd'hui, puisque nous allons vous lire des textes qui sont en lien plus ou moins proche avec la radio, que ce soit des textes qui parlent de radio, qui ont été lus à la radio. Pas de programme à vous présenter, puisqu'aujourd'hui c'est une émission surprise, une émission, j'ai envie de dire, de YOLO. Voilà. Et sans transition, je laisse la parole à Héloïse.
Cette boîte vernie ne montre rien qui s'aille, qu'un bouton à tourner jusqu'au proche déclic. Pour qu'au-dedans, finalement, faiblement se rallument plusieurs petits gratte-ciel d'aluminium, tandis que de brutales vociférations jaillissent qui se disputent notre attention. Un petit appareil d'une sélectivité merveilleuse. Ah, comme il est ingénieux de s'être amélioré l'oreille à ce point. Pourquoi ? Pour s'y verser incessamment l'outrage des pires grossièretés. Tout le flot de purin de la mélodie mondiale. Eh bien, voilà qui est parfait après tout. Le fumier, il faut le sortir et le répandre au soleil. Une telle inondation parfois fertilise. Pourtant, d'un pas pressé, revenons à la boîte pour en finir. Fort en honneur dans chaque maison depuis quelques années, au beau milieu du salon, toute fenêtre ouverte, la bourdonnante, la radieuse seconde petite boîte à ordures. Alors vous l'aurez peut-être reconnu ici, il s'agit de Francis Ponge dans son recueil pièces, qui nous décrit un objet qui a révolutionné la vie des Français au milieu du XXe siècle, j'ai nommé la radio. Et je laisse la parole à Rémi.
Voilà, et maintenant tout de suite un texte assez critique également sur ce qu'est la radio. Vous allez entendre ça tout de suite. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. Ils n'avaient pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation importante mais souvent fort ténue qui sépare l'ordure de la science pure. L'un d'eux enfin eut le courage de lever la main. « Les êtres humains autrefois étaient... » dit-il avec hésitation. Le sang lui affluait aux joues. « Enfin, ils étaient vivipares. » Très bien. Le directeur approuva d'un signe de tête. Et quand les bébés étaient décantés, naissaient, corrigea-t-il. Eh bien alors, c'était les parents. Enfin, c'est-à-dire pas les bébés, bien entendu, les autres. Le pauvre garçon était éperdu de confusion. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. « La mère !» répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science. Et, se penchant en arrière sur sa chaise, « Ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais, mais aussi la plupart des faits historiques sont désagréables. » Et il revint au petit Reuben. Au petit Reuben dans la chambre de qui, un soir, par négligence, son père et sa mère avaient, par hasard, laissé en fonctionnement l'appareil de TSF, car il faut se souvenir qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient toujours élevés par leurs parents et non dans des centres de conditionnement de l'État. Pendant que l'enfant dormait, l'appareil commença soudain à émettre un programme de radiophonie de Londres. Et le lendemain matin, à l'étonnement de son et de sa... les plus effrontés parmi les jeunes gens se risquèrent à échanger un ricanement. le petit Ruben se réveilla en répétant mot à mot une longue conférence de ce curieux écrivain ancien, l'un des très rares dont on ait autorisé la transmission des œuvres jusqu'à nous, George Bernard Shaw, qui parlait, suivant une tradition bien établie, de son propre génie. Pour le clin d'œil et la ricanement du petit Ruben, cette conférence fut bien entendu parfaitement incompréhensible, et s'imaginant que leur enfant était devenu subitement fou, ils firent venir un médecin. Celui-ci, heureusement, comprenait l'anglais, et il reconnut le discours pour celui que Shaw avait diffusé par TSF, se rendit compte de l'importance de ce qui était arrivé, et écrivit à ce sujet une lettre à la presse médicale. Le principe de l'enseignement pendant le sommeil, ou hypnopédie, avait été découvert. Le DIC fit une pause impressionnante. Le principe avait été découvert, mais il devait s'écouler bien des années avant que ce principe reçût des applications utiles. Ces premiers expérimentateurs, disait le DIC, étaient sur une mauvaise voie. Ils croyaient qu'on pouvait faire de l'hypnopédie un instrument d'éducation intellectuelle, tandis que s'ils avaient seulement commencé par l'éducation morale, dit le directeur, conduisant la bande vers la porte. Les étudiants le suivirent, griffonnant désespérément tout en marchant et pendant tout le trajet en ascenseur. Le directeur parcourut lentement une longue file de petits lits. Rose et détendue par le sommeil, 80 petits garçons et petites filles étaient étendus, respirant doucement. Il sortait un chuchotement de sous chaque oreiller. Le DIC s'arrêta et, se penchant sur l'un des petits lits, écouta attentivement. « Sont tous vêtus de vert, » dit une voix douce mais fort distincte commençant au milieu d'une phrase. « Les enfants Delta sont vêtus de kaki. Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants Delta. » Et les Epsilon sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir lire ou écrire. Et puis, ils sont vêtus de noir, ce qui est une couleur ignoble. Comme je suis content d'être un bêta. » Il y eut une pause, puis la voix reprit. « Les enfants Alpha sont vêtus de gris. Ils travaillent beaucoup plus dur que nous, parce qu'ils sont si formidablement intelligents. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta, parce que je ne travaille pas si dur. Et puis, nous sommes bien supérieurs aux gamma et aux delta. Les gamma sont bêtes. Ils sont tous vêtus de vert, et les enfants delta sont vêtus de kaki. « Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants Delta. Et les Epsilon sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir. »
Ça parle en couleur.
Oui, voilà, c'était Paul Naref sur Transistor, et juste avant, vous aurez sans doute reconnu un extrait du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et on va continuer tout de suite avec un autre texte que nous propose Mathias.
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée aux territoires malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver. Avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Vous aurez reconnu le général de Gaulle dans son appel du 18 juin.
Presque le général.
Presque le général, mais quasiment le général.
Incarné.
Et qui fait de la radio un enjeu politique autant que culturel. Et je laisse la parole à Héloïse.
Bonjour monsieur le sauvage, dit-il. Je suis le représentant du radio horaire. Sursautant comme sous la morsure d'un serpent, le sauvage fut debout d'un bond, éparpillant flèches, plumes, pots à colle et pinceaux dans toutes les directions. « Je vous demande pardon, dit le reporter avec un regret sincère. Je n'avais nullement l'intention. » Il porta le doigt son chapeau. Le tuyau de poêle en aluminium dans lequel il porta son récepteur et son transmetteur de TSF. « Excusez-moi de ne pas l'ôter, dit-il. Il est un peu lourd. » Alors, comme je le disais, je suis le représentant du radio. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda le sauvage, le regardant de travers. Le reporter lui fit, en retour, son sourire le plus engageant. « Eh bien, mais naturellement, nos lecteurs s'intéresseraient vivement à... » Il mit la tête de côté. Son sourire devint presque un artifice de coquetterie. « Simplement quelques paroles de vous, monsieur le sauvage. » Et rapidement, d'une série de gestes rituels, il déroula deux fils métalliques reliés à la batterie portative qu'il portait bouclée à la ceinture. Il les ficha simultanément dans les parois de son chapeau d'aluminium, toucha son ressort sur le fond, et des antennes se dressèrent en l'air, toucha un autre ressort à la lisière du bord, et, comme un diable d'une boîte à surprise, il en sortit d'un bond un microphone qui resta là, suspendu, tremblotant, à 15 cm devant son nez. Il rabattit deux récepteurs par-dessus ses oreilles, pressa un commutateur sur le côté gauche du chapeau, et de l'intérieur arriva un léger bourdonnement de guêpe. Il tourna un bouton à droite, et le bourdonnement fut interrompu par un sifflotement et un toussotement stéthoscopique, par des hoquets et des piaillements soudains. « Allô ?» dit-il au microphone. « C'est vous, Hetzel ? Ici Primo Melon. »« Oui, j'ai déniché. Monsieur le sauvage va maintenant prendre le microphone et dire quelques mots. N'est-ce pas, monsieur le sauvage ?» Il leva les yeux sur le sauvage avec un autre de ses sourires engageants qu'il savait si bien pratiquer. « Veuillez simplement dire à nos lecteurs pourquoi vous êtes venu ici. Ce qui vous a fait quitter Londres. Ne coupez pas, Hetzel, si brusquement. « Eh bien, entendu, parlez-leur de votre fouet. » Le sauvage sursauta. « Comment savait-il ce qui avait trait au fouet ? Nous brûlons tous d'envie de savoir quelque chose au sujet du fouet. Et puis, quelque chose sur la civilisation. Vous savez bien le genre que je veux dire. » Ce que je pense de la femme civilisée. Quelques mots seulement, très peu. Le sauvage obéit d'une façon si littérale qu'elle en fut déconcertante. Il prononça 5 paroles, pas davantage. 5 mots les mêmes que ceux qu'il avait dit à Bernard au sujet de l'archichandre de Canterbury. Annie sonne et saute Sénat. Et, saisissant le reporter par l'épaule, il le fit pivoter. Le jeune homme se révéla capitonné à souhait. Visa. Et, de toute la force et la précision d'un de ces maudits footballeurs de championnat, décocha un coup de pied véritablement prodigieux. 8 minutes plus tard, une nouvelle édition du Radio Horaire était en vente dans les rues de Londres. Un reporter du Radio Horaire reçoit du sauvage mystérieux un coup de pied au coccyx, disait la manchette de la première page. Situation sensationnelle dans le Surrey. Encore donc un extrait du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, suivi d'une pause musicale.
C'est moi que je suis l'animateur de Radio Libre. C'est moi que je fais trembler la radio d'État. C'est Moi que je fous la trouille au périphérique. Ils font de la merde, moi je fais du caca. Radio caca, c'est ce que les jaloux disent en parlant des radios libres. Mais ça ne touche pas. Radio caca, de Dunkerque jusqu'à Nice. Radio caca, quel délice, les oiseaux en sont là-bas. C'est moi que je suis l'animateur de Radio Libre. Sur la FM, on n'entend plus rien que ma voix. Sans arrêt, je passe de la funky music. Moi, ça me branche tout ce qui vient des USA. Radio caca, c'est ce que les jaloux disent en parlant des radios libres. Mais ça ne touche pas. Radio caca, de Dunkerque jusqu'à Nice. Radio caca, quel délice, les oiseaux en sont bavards.
Et voilà, Radio Caca sur Transistor. Qu'est-ce qu'on aime ça, la bonne chanson française. Et juste avant, on entendait à nouveau Aldous Huxley, donc le meilleur des mondes. Les aléas des petites surprises font que le même ouvrage est choisi deux fois par deux personnes différentes. Et tout de suite, on se jette dans un autre texte qui, je vous le promets, n'a pas encore été lu dans cette émission. Maria me demande pourquoi les Français ne chantent pas. Je lui dis, si, ils chantent. Alors pourquoi ils chantent si mal? Et pourquoi ils chantent des trucs si cons? Elle me dit, chante-moi des chansons françaises, tu vas voir. Moi, je cherche des trucs bien. Je lui chante « Vous qui passez sans me voir ». Mais elle est du rail, celle-là. Je la sais pas bien. Il n'y a pas de radio chez nous, alors je suis à la traîne. Je connais que les chansons que les copains chantent souvent, surtout du Tino Rossi, du Maurice Chevalier, de la mémère qui chante les roses blanches, je sais pas son nom, elle a une voix rocailleuse. Le dimanche matin, dans la rue Sainte-Anne, on entend qu'elle sur toutes les TSF, à toute volée. Maria a honte pour moi et pour mon malheureux peuple. Il n'y a qu'une chose qui lui plaise, c'est la route de Dijon, ou Vaso. Oui, mais bon, c'est des chansons de scouts, ça, j'ai pas été chez les scouts, moi je connais juste celle-là et encore deux couplets. José, qui se targue de son sang espagnol, apprend aux Russes cultivés « Adios muchachos », que je ne sais pas prononcer, qu'elle répète pieusement, puisque ça vient de la France, n'est-ce pas? La grande Fernande, une volontaire d'entre les volontaires, une grande poufiasse triste, chante « Mon amant de Saint-Jean » avec tant de conviction qu'elle termine toujours en gueulant « Les hommes sont des beaux dégoûtants !» et puis elle éclate en sanglots. Ça a frappé les babas qu'une chanson ait un tel pouvoir. Il a fallu que je leur traduise les paroles. Quand j'eus expliqué... Car les mots d'amour qui grisent toujours sont ceux qu'on dit avec les yeux. Les babas unanimes s'écrièrent « Oh, efface-moi, kak pravda !» Comme c'est vrai. Et leurs yeux s'embuèrent. J'aurais aimé voir la tête du petit père Lénine s'il avait pu entendre. Voilà, donc, François Cavanna, un extrait des Ruskov, le deuxième volume de son autobiographie, où il raconte sa rencontre avec une jeune fille russe, OSTO, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons tout de suite poursuivre... avec un autre texte que Mathias va nous lire.
Personne n'aurait cru dans les dernières années du 19e siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles. Que, tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, par le monde, vaquant à leurs petites affaires, dans la sereine sécurité de leur empire sur la matière. Il est possible que, sous le microscope, les infusoires fassent de même. Personne ne donnait une pensée au monde plus ancien de l'espace comme source de danger pour l'existence terrestre, ni ne songeait seulement à eux pour écarter l'idée de vie à leur surface comme impossible ou improbable. Il est curieux de se rappeler maintenant les habitudes mentales de ces jours lointains. Tout au plus, les habitants de la Terre s'imaginaient-ils qu'il pouvait y avoir sur la planète Mars des êtres probablement inférieurs à eux et disposés à faire bon accueil à une expédition missionnaire? Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des esprits qui sont à nos esprits ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects vastes, calmes et impitoyables, considéreraient cette terre avec des yeux envieux, dressaient lentement et sûrement leur plan pour la conquête de notre monde, et dans les premières années du XXe siècle vint la grande désillusion. Mais quel rapport avec la radio ? Eh bien, c'est un texte de H.G. Wells, La guerre des mondes, lu par le fameux Orson Welles, et qui, selon la légende, déclencha une furie de panique dans les rues des États-Unis. I'll be on the hotline like every day, making sure the DJ know what I want him to play. You know I got my top back and my feet lit out, rocking my stylish shades and turning up my radio out. Turn up my radio.
Et voilà, vous l'aurez tous reconnu, c'était Beyoncé sur Transistor. Alors voilà, il y a la grande musique, il y a la petite musique, il y a aussi la petite littérature, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. Se rendant dans la salle de bain, il hésita entre douche et bain, opta pour le bain, fit couler l'eau, alluma la petite radio posée sur le radiateur près des placards de la penderie en bois, se déshabilla et entra dans la baignoire avec un soupir de soulagement. Tandis que Peggy Lee chantait « Fever » sur 101.3 FM, Arthur plongea sa tête plusieurs fois sous l'eau. Ce qui l'étonna d'abord fut la qualité sonore de la chanson qu'il écoutait, puis le réalisme stupéfiant de la stéréophonie, surtout pour un appareil censé être en monophonie. À bien entendre, il semblait que le claquement de doigts qui accompagne la mélodie provenait de la penderie. Intrigué, il sortit de l'eau et marcha à pas de loup vers les portes du placard pour mieux entendre. Le bruit était de plus en plus précis. Il hésita, prit son souffle et ouvra brusquement les deux battants. Ses yeux s'écarquillèrent, il fit un mouvement de recul. Caché entre les cintres, il y avait une femme, les yeux clos, apparemment envoûtée par le rythme de la chanson, faisant claquer son pouce contre son index. Elle fredonnait. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là » questionna-t-il. La femme sursauta et ouvrit ses yeux en grand. « Vous me voyez ?»« Bien sûr que je vous vois. » Elle semblait totalement surprise qu'il la regarde. Il lui fit remarquer qu'il n'était ni aveugle ni sourd et formula à nouveau sa demande « Que faisait-elle là ?» Pour toute réponse, elle lui dit qu'elle trouvait ça formidable. Arthur ne voyait rien de formidable à cette situation et, sur un ton plus agacé que précédemment, reposa une troisième fois sa question. Que faisait-elle dans sa salle de bain à cette heure avancée de la nuit ? « Je crois que vous ne vous rendez pas compte, » reprit-elle. « Touchez mon bras. » Il resta interloqué et insista. Elle insista. « Touchez mon bras, s'il vous plaît. »« Non, je ne toucherai pas votre bras. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle prit Arthur par le poignet et lui demanda s'il la sentait quand elle le touchait. L'air excédé, il confirma avec fermeté qu'il l'avait senti quand elle l'avait touché, qu'il la voyait et l'entendait parfaitement. Il demanda une quatrième fois qui elle était et ce qu'elle faisait dans le placard de sa salle de bain. Elle éluda totalement sa question et répéta, très enjouée, que c'était fabuleux qu'il la voie, l'entende et puisse la toucher. Éreinté par sa journée, Arthur n'était pas d'humeur. « Mademoiselle, ça suffit. C'est une blague de mon associé. Vous êtes qui, une call girl en cadeau de pendaison de crémaillère ? Vous êtes toujours grossier comme ça, j'ai l'air d'une pute ?» Arthur soupira. « Non, vous n'avez pas l'air d'une pute, mais vous êtes juste caché dans mon dressing à presque minuit. En attendant, c'est vous qui êtes à poil, pas moi. » Arthur sursauta, saisit une serviette, la passa autour de sa taille et essaya de reprendre une contenance normale. Puis il haussa la voix. « Bon, maintenant, on arrête ce jeu, vous sortez de là, vous rentrez chez vous et vous direz à Paul que c'est très moyen. Très très moyen. » Elle ne connaissait pas Paul et lui intima de baisser le ton. Après tout, elle non plus n'était pas sourde, c'était les autres qui ne l'entendaient pas, elle l'entendait très bien. Il était fatigué et ne comprenait rien à la situation. Elle semblait très perturbée. Lui venait d'achever son emménagement et voulait seulement être tranquille. Un très très beau texte. Alors la concordance des temps se retourne encore dans sa tombe, mais voilà, un magnifique texte de Marc Lévy dans « Et si c'était vrai ?»
Il a osé.
Où la radio fait soudain surgir des femmes dans des placards et je pense que c'était important de ne pas faire cette impasse. Pendant cette saison de Les yeux en des oreilles. Et on continue tout de suite en élevant un petit peu le niveau peut-être avec Mathias.
À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pidis. Et toi, que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières, portraits de grands hommes et 1000 titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes. Du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour y passent. Le matin, par 3 fois, la sirène y gémit. Une cloche orageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles. Les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris, entre la rue Aumontierville et l'avenue des Ternes. Oui, donc Apollinaire qui a lu ces poèmes, qui les a enregistrés, un des premiers à utiliser le son radiophonique pour faire de la poésie un objet vibrant. Et en conclusion de cette émission des yeux ont des oreilles toute particulière consacrée aux relations entre le texte et le son radiophonique, je tiens à signaler que cette émission a quand même été un peu bricolée. Et je remercie Manu pour la régie et Jérémy pour les jingles et je remercie mes deux acolytes pour les yeux ont des oreilles.
Merci à vous trois pour ce numéro de Lio, certes un peu bricolé, mais très très agréable à écouter. C'est maintenant l'heure de Transhistorien, un transhistorien pour lequel on va complètement changer d'univers générique.